L'hôtel hanté de Wilkie Collins. Première partie, chapitre 1er. En 1860, la réputation du docteur Wibrow de Londres était arrivée à son apogée. Les gens bien informés affirmaient que, de tous les médecins en renom, c'était lui qui gagnait le plus d'argent. Un après-midi, vers la fin de l'été, le docteur venait de finir son déjeuner après une matinée d'un travail excessif. Son cabinet de consultation n'avait pas désempli, et il tenait déjà à la main une longue liste de visites à faire, lorsque son domestique lui annonça qu'une dame désirait lui parler. « Qui est-ce ? » demanda-t-il. « Une étrangère ? » ?»« Oui, monsieur. » »« Je ne reçois pas en dehors de mes heures de consultation. Indiquez-les-lui et renvoyez-la. » »« Je l'ai lui indiqué, monsieur. » »« Eh bien, elle ne veut pas s'en aller. »« Elle ne veut pas s'en aller, » répéta en souriant le médecin. C'était une sorte d'original que le docteur Wibrow, et il y avait dans l'insistance de l'inconnu une bizarrerie qui l'amusait. « Cette dame obstinée vous a-t-elle donné son nom ?»« Non, monsieur, elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne vous retiendra pas 5 minutes, et que la chose est trop importante pour attendre jusqu'à demain. Elle est là, dans le cabinet de consultation, et je ne sais comment la faire sortir. » Le docteur Wibrow réfléchit un instant. Depuis plus de 30 ans qu'il exerçait la médecine, il avait appris à connaître les femmes et les avait toutes étudiées, surtout celles qui ne savent pas la valeur du temps et qui, usant du privilège de leur sexe, n'hésitent jamais à le faire perdre aux autres. Un coup d'œil à sa montre lui prouva qu'il fallait bientôt commencer sa tournée chez ses malades. Il se décida donc à prendre le parti le plus sage, à fuir. « La voiture est-elle là ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. Très bien. Ouvrez la porte sans faire de bruit et laissez la dame tranquillement en possession du cabinet de consultation. Quand elle sera fatiguée d'attendre, vous savez ce qu'il y a à lui dire. Si elle demande quand je serai rentré, dites que je dîne à mon cercle et que je passe la soirée au théâtre. Maintenant doucement, Thomas, si nos souliers craquent, je suis perdu. » Puis il prit sans bruit le chemin de l'antichambre, suivi par le domestique marchant sur la pointe des pieds. La dame se douta-t-elle de cette fuite ? Les souliers de Thomas craquèrent-ils ? Peu importe. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au moment où le docteur passa devant son cabinet, la porte s'ouvrit. L'inconnu apparut sur le seuil et lui posa la main sur le bras. « Je vous supplie, monsieur, de ne pas vous en aller sans m'écouter un instant. » Elle prononça ces paroles à voix basse, et cependant d'un ton plein de fermeté. Elle avait un accent étranger. Ses doigts serraient doucement mais aussi résolument le bras du docteur. Son geste et ses paroles n'eurent aucun effet sur le médecin, mais à la vue de la figure de celle qui le regardait, il s'arrêta net. Le contraste frappant qui existait entre la pâleur mortelle du teint et les grands yeux noirs pleins de vie, brillant d'un reflet métallique, dardé sur lui, le cloua à sa place. Ses vêtements étaient de couleur sombre et d'un goût parfait. Elle semblait avoir 30 ans. Ses traits, le nez, la bouche et le menton étaient d'une délicatesse de forme qu'on rencontre rarement chez les Anglaises. C'était, sans contredit, une belle personne, malgré la pâleur terrible de son teint et le défaut moins apparent d'un manque absolu de douceur dans les yeux. Le premier moment de surprise passé, le docteur se demanda s'il n'avait pas devant lui un sujet curieux à étudier. Le cas pouvait être nouveau et intéressant. « Cela m'en a tout l'air, » pensa-t-il, « et vaut peut-être la peine d'attendre. » Elle pensa qu'elle avait produit sur lui une violente impression et desserra la main qu'elle avait posée sur le bras du docteur. « Vous avez consolé bien des malheureuses dans votre vie, » dit-elle. « Consolez-en une de plus aujourd'hui. » Sans attendre de réponse, elle se dirigea de nouveau vers le cabinet de consultation. Le docteur la suivit et ferma la porte. Il la fit asseoir sur un fauteuil, en face de la fenêtre. Le soleil, ce qui est rare à Londres, était éblouissant cet après-midi-là. Une lumière éclatante l'enveloppa. Ses yeux la supportèrent avec la fixité des yeux d'un aigle. La pâleur uniforme de son visage paraissait alors plus effroyablement livide que jamais. Pour la première fois depuis bien des années, le docteur sentit son pouls battre plus fort en présence d'un malade. Elle avait demandé qu'on l'écoutât, et maintenant elle semblait n'avoir plus rien à dire. Une torpeur étrange s'était emparée de cette femme si résolue. Forcée de parler le premier, le docteur lui demanda simplement, avec la phrase sacramentelle, ce qu'il pouvait faire pour elle. Le son de cette voix parut la réveiller. Fixant toujours la lumière, elle dit tout à coup : « J'ai une question pénible à vous faire. » « Qu'est-ce donc ? » Son regard allait doucement de la fenêtre au docteur. Sans la moindre trace d'agitation, elle posa ainsi sa pénible question. « Je veux savoir si je suis en danger de devenir folle. » À cette demande, les uns auraient ri, d'autres se seraient alarmés. Le docteur Wibrow, lui, n'éprouva que du désappointement. Était-ce donc là le cas extraordinaire qu'il avait espéré en se fiant légèrement aux apparences? Sa nouvelle cliente n'était-elle qu'une femme hypochondriaque dont la maladie venait d'un estomac dérangé et d'un cerveau faible? « Pourquoi venez-vous chez moi ? » lui demanda-t-il brusquement. « Pourquoi ne consultez-vous pas un médecin spécial, un aliéniste ?» Elle répondit aussitôt. « Si je ne vais pas chez un de ces médecins-là, c'est justement parce qu'ils seraient un spécialiste et qu'ils ont tous la funeste habitude de juger invariablement tout le monde d'après les mêmes règles et les mêmes préceptes. Je viens chez vous parce que mon cas est en dehors de toutes les lois de la nature, parce que vous êtes fameux dans votre art pour la découverte des maladies qui ont une cause mystérieuse. Êtes-vous satisfait ? » Il était plus que satisfait. Il ne s'était donc pas trompé. Sa première idée avait été la bonne. Cette femme savait bien à qui elle s'adressait. Ce qui l'avait élevé à la fortune et à la renommée, lui, docteur Wibrow, c'était la sûreté de son diagnostic, la perspicacité, sans rivale parmi ses confrères, avec laquelle il prévoyait les maladies dont ceux qui venaient le consulter pouvaient être atteints dans un temps plus ou moins éloigné. « Je suis à votre disposition, » répondit-il. « Je vais essayer de découvrir ce que vous avez. » Il posa quelques-unes de ces questions que les médecins ont l'habitude de faire. La patiente répondit promptement et avec clarté. Sa conclusion fut que cette dame étrange était, au moral comme au physique, en parfaite santé. Il se mit ensuite à examiner les principaux organes de la vie. Ni son oreille ni son stéthoscope ne lui révélèrent rien d'anormal. Avec cette admirable patience et ce dévouement à son art qu'il avait distingué dès le temps où il étudiait la médecine, il continua son examen, toujours sans résultat. Non seulement il n'y avait aucune prédisposition à une maladie du cerveau, mais il n'y avait même pas le plus léger trouble du système nerveux. « Aucun de vos organes n'est atteint, » dit-il. « Je ne peux même pas me rendre compte de votre extrême pâleur. Vous êtes pour moi une énigme. »« Ma pâleur n'est rien, » répondit-elle avec un peu d'impatience. « Dans ma jeunesse, j'ai failli mourir empoisonnée. Depuis, mes couleurs n'ont jamais reparu, et ma peau est si délicate qu'elle ne peut supporter le fard. Mais ceci n'a aucune importance. Je voulais avoir votre opinion, je croyais en vous, et maintenant je suis tout désappointée. » Elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Et c'est ainsi que tout cela finit, » dit-elle en elle-même amèrement. Le docteur parut touché. Peut-être sera-t-il plus exact de dire que son amour-propre de médecin était un peu blessé. « Cela peut encore se terminer comme vous le voulez, » dit-il, « si vous prenez la peine de m'aider un peu. » Elle releva la tête, ses yeux étincelaient. « Expliquez-vous, comment puis-je vous aider ?»« Avouez, madame, que vous venez chez moi un peu comme un sphinx. Vous voulez que je découvre l'énigme avec le seul secours de mon art. La science peut faire beaucoup, mais non pas tout. Voyons, quelque chose doit vous être arrivé. » Quelque chose qui n'a aucun rapport à votre état de santé et qui vous a effrayé. Sans cela, vous ne seriez jamais venu me consulter. Est-ce la vérité ? C'est la vérité, dit-elle vivement. Je recommence à avoir confiance en vous. Très bien. Vous ne devez pas supposer que je vais découvrir la cause morale qui vous a mise dans l'état où vous êtes. Tout ce que je puis faire, c'est de voir qu'il n'y a aucune raison de craindre pour votre santé, et à moins que vous ne me preniez comme confident, je ne puis rien de plus. Elle se leva, fit le tour de la chambre. Supposons que je vous dise tout, répondit-elle, mais faites bien attention que je ne nommerai personne. Je ne vous demande pas de nom. Les faits seuls me suffisent. Les faits sont de peu d'importance, reprit-elle. Je n'ai que des impressions personnelles à vous révéler, et vous me prendrez probablement pour une folle imaginaire quand vous m'aurez entendue. Qu'importe. Je vais faire mon possible pour vous contenter. Je commence par les faits, puisque vous le voulez. Mais croyez-moi, cela ne vous servira pas à grand-chose. » Elle s'assit de nouveau et commença avec la plus grande sincérité, la plus étrange et la plus bizarre de toutes les confessions qu'eût jamais entendues le docteur.